Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour Erdiwa. Mardi 12 mars, j'ai écrit un billet d'humeur, voire un billet d'humour. Je me suis demandé si j'étais humoriste. Ne serais-je pas humoriste plutôt que poétesse? Très drôle, n'est-ce pas? Je rigole déjà intérieurement depuis longtemps, mais peut-être que je ferais mieux d'exprimer au plus grand nombre ce que je pèse et ressens, parce qu'apparemment, comme si c'était un métier de faire rire les autres, de parler du monde qui nous entoure avec un brin d'ironie et de réalisme, histoire de faire voir qu'on a des yeux qui savent décrypter des situations, une voix pour les porter et un cœur pour réagir. Drôle d'idée, non? Manquerait plus que je me marie avec un clown, ça serait la meilleure blague de ma vie. Oups, je voulais dire, me marier avec un clown. J'ai déjà tout raconté aux voisins d'en face, à la radio, à la télé, sur un plateau de théâtre, aux arbres dans la forêt, enfin, presque tout. Arrête de raconter ta vie. Voilà, effectivement, je crois que ma grand-mère avait raison quand elle me voyait débouler enfant chez elle et prendre la place de l'animatrice de TF1 et lui expliquer que tout ce qu'elle devait savoir, c'est moi qui allais lui raconter et qu'elle devrait arrêter TF1, c'est dangereux. Alors, animatrice d'un grand plateau, ça serait très bien pour moi. En attendant, chouchou, t'auras eu le temps de faire mille et une expériences, j'en passe, et des meilleures. Je suis un vrai rayon de soleil et j'ai juste envie de briller comme une étoile. Voilà, femme libre, merci. Pff, quelle galère pour y arriver. Alors, aurais-je le droit d'être juste heureuse? Ah là là, ce bonheur-là, cet infini qui nous porte à croire que tout est possible? Aurais-je le droit d'être une femme artiste épanouie, avec un homme avec qui je pourrais rire et danser tous les jours sans avoir peur de me prendre en pleine gueule un boulet de canon ou une épine dans l'œil? Un avec qui je pourrais faire l'amour en me disant que ce qu'il m'a raconté c'était pas du flan avec du caramel sauté, juste pour me faire rire et fermer la porte après pour qu'il puisse dire « Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne celle-là ». Ah, rien qu'à en voir approcher certains, je serais prête à leur arracher leur beau sourire. Ça, c'est Lassa qui l'a chanté et je l'ai intégré à mon répertoire de chansons d'extase et de dépression. Oh, la belle aventurière! Voilà ma dernière réplique pour me définir. C'est vraiment malin. Au fait, t'as pris quelle piste? Celle qui m'est tombée sur le coin du nez ou celle que j'entrevois et qui me fait palpiter? As-tu gardé le sens précis de ta vie? As-tu entendu rire et pleurer tes frères et tes sœurs? As-tu donné hier pour recevoir aujourd'hui autant d'amour et de bonheur? Quel chemin choisirez-vous? Il a suffi que Zoé, une jeune covoitureuse qui est montée dans ma Twingo mobile, me dise que je ressemble à une humoriste pour que ça me rappelle le nombre de fois où on m'a comparée à un engin comme ça. Quel délice de pouvoir dire au micro ce qu'on a à dire et de se sentir écoutée, aimée, soutenue et accompagnée. J'ai trouvé des amis pour ça. Voilà ce que j'ai trouvé sur ma route, une bande de cœur incroyable et vraie. Je n'écris que sur émotion, partage et aventure. C'est pour ça que j'ai décidé de continuer en montant ma compagnie, Voile du Monde, histoire de voir comment tout ça est voilé et comment je mets ma plume dans ce monde-là. N'oublions pas que certains ne m'aiment pas, mais je les remercie quand même. Alors on verra si j'arrive à tous vous faire rire.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Zel. Bonjour.
Bonjour.
Ton vrai nom est Justine Lambert. Mm-hmm. Et alors, tu es ici pour nous parler un peu de ton existence d'artiste en recherche de dates estivales pour pouvoir jouer sur le Diwa et ailleurs même. Et aussi, tu es instrumentiste du Mgoni, un instrument de quel pays ?
Alors, c'est un instrument d'Afrique de l'Ouest qui, du coup, celui-là a été créé dans le Tarn par des amis qui sont... très chouette, avec leurs mains, ils savent faire des instruments de musique.
Donc ta passion, c'est l'Afrique?
Ma passion, c'est les voyages, la rencontre, la découverte. Et j'adore tout ce qui est artistique, donc la musique aussi, danse. Je pense tout ce qui fait vibrer l'âme. Et j'ai eu la chance de rencontrer des amis sénégalais qui m'ont initié aussi à la musique africaine, comme on pourrait dire. Ahmed Sissoko, un ami très proche. Et là, j'ai la chance de partir du coup en Guinée, travailler avec des artistes là-bas et surtout être dans du multiculturel, on pourrait appeler ça grossièrement, avec il y aura des artistes du monde entier, des auteurs africains, des auteurs français, des metteurs en scène, une metteuse en scène du Canada, enfin voilà. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir continuer à explorer l'univers artistique avec plein de palettes différentes.
Oh, alors tu as introduit l'émission avec ton instrument Ngoni. Tes inspirations musicales sont issues de cette culture ou alors tu crées toi-même ou tu composes toi-même tes morceaux?
Forcément, je baigne aussi dans l'écoute de la musique africaine. Je pense à Sona Djabartef que j'aime beaucoup. Je pense à... Après, j'aime aussi du coup autant Lassa pour ses textes engagés qui parlent de la profondeur de l'âme et du cœur, de ce qu'on rencontre en voyage. Donc tout ça, c'est un peu des mix en fait, entre ce qu'on écoute, ce qu'on crée, ce qu'on reçoit. Et...
Qu'est-ce qui t'attire dans la culture africaine et dans sa théâtralité aussi peut-être?
Une sorte de... Ils sont puissants, il y a une force... Il dégage une force certaine, en fait, sur la... Ouais, quand il danse, quand il chante, c'est... Voilà. Il y a une force qui émane d'eux qu'on trouve pas forcément ailleurs, en fait.
Et toi-même, tu t'inities à cette danse et à cette musique. Et tu as évolué depuis 8 ans avec ton instrument. Parce que ça fait combien de temps que tu travailles avec le Ngoni?
Le Ngoni, ça fait 3 ans, je pense. Et effectivement, oui, ça m'a fait beaucoup évoluer. Ça m'a... je pense qu'il y a un côté aussi très... on trouve sa propre harmonie avec son instrument. Et il m'a énormément pacifiée. Et de pouvoir en plus emmener ce sentiment de pacification et de zénitude dans les endroits où on passe, que ce soit avec les enfants ou ce partage-là, en fait, de bulles créatives, il est très chouette, en fait.
Une bulle créative, ça signifie quoi exactement ?
On crée une atmosphère en emmenant son univers à soi et en même temps chacun du coup va se dévoiler un peu et donner ses idées, son envie de créer quelque chose et du coup ça crée une atmosphère de création qui va donner lieu à des échanges, des créations. Ouais.
Ton instrument Ngoni, c'est un instrument qui a une philosophie. Et quel est son rôle au sein d'un orchestre?
Alors, il faut savoir que le Goni, en fait, donc, est très codé en Afrique de l'Ouest. C'est l'instrument du conteur et de la conteuse, du griot. Et c'est lui qui raconte, enfin, en tout cas, avec lui, on raconte les histoires. Mais ce n'est pas que des histoires juste en l'air, quoi. C'est vraiment des histoires, les histoires de la famille. Et on l'emmène dans les cours pour les mariages, pour les enterrements. Et en fait, rien que sa forme représente quelque chose. Donc la calebasse incarne en fait la terre-mère. Et le manche, c'est la connexion avec le ciel et les esprits qui entourent. Et du coup, à travers ça, en fait, normalement, on dit que les graines d'histoire sont dans la calebasse. Et que quand on va aller jouer, on vient avec ses propres histoires. Et en même temps, on les donne et on en reçoit d'autres. Donc c'est vraiment un jeu d'interaction où... De vie, quoi. On vient raconter les histoires d'une famille particulière et on transmet, en fait.
Alors ton instrument, tu me disais qu'il était fabriqué en France. Tu peux quand même nous expliquer comment tu as pu le faire fabriquer par exemple et par qui ?
Alors du coup, c'est des amis du Tarn. Donc c'était dans l'atelier de Nico, un pote menuisier, qui du coup avait ouvert en même temps sa porte à deux amis conteurs. Donc c'est deux Francs, donc que je salue, dont un qui est conteur professionnel maintenant et qui joue avec son goni. Et donc ils se sont lancés dans cette création parce qu'ils ne trouvaient pas forcément des goni qui leur correspondaient et ils ont envie d'en faire. Donc ils en ont sorti 7 de l'atelier en faisant venir les calebasses du Burkina et le bois et par contre du Tarn. Donc c'était fait, sculpté sur le Tarn.
Le bois est de quelle essence ?
Alors je crois que c'est du merisier sauvage, si je me souviens bien.
Comment as-tu rencontré cet instrument ?
Alors après, c'est vraiment mes premières grandes rencontres de festival. Je jouais en fait avec à Jazz in Marciac. On faisait une petite performance dans la rue avec Eugénie. Et en fait, en lisant un texte, je suis tombée sur Djeur Sissoko, qui est du coup chanteur et joueur de kora sénégalais. C'est là la première fois où il m'a proposé en fait de faire une lecture de texte avec lui. Et c'était ma première fois où, du coup, que je faisais un concert, lecture et kora. Suite à ça, je l'ai rejoint à Paris, on a fait un concert au New Morning. Et voilà, c'était. Et du coup, j'ai découvert la kora et l'univers sénégalais aussi, comme ça, avec eux. Et après, voilà, c'est des suites de découvertes artistiques. Et c'est vrai que, après, on m'en a offert un, donc la première fois, d'un goni. Et après, j'ai eu envie d'avoir le mien pour pouvoir continuer justement à m'accompagner sur mes textes, mes déclamations de poésie et voilà, trouver.
Alors, les particularités de cet instrument sont les cordes. Il y en a combien sur cet instrument ?
Alors, sur le goni, c'est 10 cordes.
Et qui sont sur lesquelles tu joues ou alors il y a des cordes qui sont là juste en résonance de notes
On joue en majorité sur 4 ou 5 cordes en fait. Mais voilà.
Mais les autres cordes, elles sont en résonance ? Elles entrent en résonance ?
Les autres cordes entrent en résonance, ouais.
Au début de l'émission, donc, tu nous as fait une lecture d'un billet. C'est au quotidien que tu écris ces billets ?
Alors j'aimerais justement, je pense beaucoup, le faire au quotidien parce que je me rends compte que c'est vraiment un truc qui me plaît, de pouvoir raconter ce que je vois, ressens et pouvoir le faire au micro aussi. Et pour l'instant, je me suis bien cantonnée en fait à l'écriture de texte et à le transmettre par écrit. Mais c'est vrai que j'aspire à le faire beaucoup plus et j'aimerais un jour pouvoir être sur une émission de radio ou de télé pour pouvoir continuer à faire ça, ouais.
Voilà, ben c'est un petit début avec nous pour la radio. Et puis donc tu vas peut-être nous interpréter aussi d'autres morceaux là, peut-être en solo, l'instrument en solo, ou alors tu as toujours un texte qui accompagne.
Non, en général, dès que je joue avec l'instru, c'est avec un texte, ouais. Alors parce que en fait l'été, je fais je joue dans les festivals. Et avec le goni, et j'ai mon petit répertoire de poèmes donc qui s'appelle Souffle Butterfly. Et avec ça, j'ai une dizaine de textes que je déclame avec le goni.
Et tu continues d'écrire des poèmes toujours, et depuis combien de temps tu es mise à écrire ?
Ça fait longtemps, quelques années, je ne sais pas. Enfin, j'ai toujours écrit depuis que je suis enfant, mais que j'essaie de donner des formes de textes poétiques, ça fait bien 10 ans maintenant. Surtout depuis la sortie de mes études, ouais, donc presque 10 ans maintenant.
Et alors, les inspirations sont issues de ta propre perception ou alors tu t'inspires aussi de textes ou de contes d'Afrique ?
Ça m'inspire beaucoup forcément de lire d'autres. Et après, je me rends compte que c'est vraiment, dès que j'ai beaucoup d'émotions, que je vis des aventures avec des énergies différentes, que ça donne quoi. Si tu restes que tout seul devant ton ordinateur, t'as pas d'inspiration, quoi. C'est vraiment en allant chercher la vie et en rencontrant la vie que voilà, l'inspiration arrive. Et là, ça te paraît évident, t'as envie d'écrire quelque chose. Et c'est pour ça que je suis un peu aussi droguée du voyage et de l'aventure, parce que j'ai toujours l'impression d'être beaucoup plus nourrie dans ces moments-là et d'être traversée par beaucoup de choses. Donc l'écriture me permet de transmettre, quoi.
Tu vas peut-être nous proposer un autre extrait musical. Et donc, je t'inviterai à prendre place si tu le souhaites.
Avec plaisir. On a pris une trace comme ça, pour partir. On fait des phrases. On tombe dedans. On s'en mêle. On s'engueule. On s'embrasse. La vie est là, cherche-la. Juste là. Danser dans les airs. Ne plus revenir en arrière. S'inspirer et chanter. La loi Lopsi 2 s'est inscrite dans notre pays. Il va falloir y penser que ce pays a des lois que tu ne veux pas. Pourquoi tu pars? Pourquoi tu restes pas là à dire ce que tu vois? La tendance est à l'intendance. Faut-il penser qu'il vaut mieux tout oublier sous peine de ne plus oser lever les yeux au ciel? Ça craint le sang rouge des aïeuls. Il va falloir swinguer. Swingalo. Swingalo. La terre est ronde. La première fois que j'ai vu un arc-en-ciel, j'ai dansé dans les rues, j'ai flirté avec l'inconnu. T'es déguisé et tu te caches derrière ton écran. Tu veux voir la vie? Alors baisse la vitre. Mais pas trop vite. Il semblerait que le verre protège du monde et de sa folie. Est-elle si folle, cette vie, que l'on nous le dit? Sur la montagne là-haut, un grand sage à l'esprit éveillé regarde et sent les êtres s'animer.
Merci. Ce texte, tu l'as écrit à quel moment, par exemple?
Alors, ce texte, je l'ai écrit justement quand j'étais à Die, il y a quelques années de ça. Donc, il a fait des voyages.
Die t'a inspiré aussi dans ces textes, comme celui-ci, tu en as écrit beaucoup?
Oui, à Die, j'ai toujours trouvé un petit paradis pour moi qui, justement, aime tout ce qui est artistique, pour me sentir bien, en bienveillance avec... avec beaucoup de personnes ici qui sont dans ce délire créatif aussi. Et un paradis naturel aussi pour pouvoir justement s'inspirer de la nature et passer du temps à la rivière, faire de la musique et être heureux.
Est-ce que tu t'imprègnes de la culture africaine pour tes textes ou tes poèmes d'aujourd'hui?
Je pense pas encore vraiment me sentir imprégnée de la culture africaine. J'ai quelques connaissances et j'ai baigné un peu, mais... Là, je pense vraiment pouvoir en profiter en partant en Guinée. Et je pense que c'est en vivant dans le pays qu'on s'imprègne. C'est compliqué, sinon après, il ne suffit pas d'écouter de la musique pour se sentir imprégné et devenir créateur après par rapport à une culture, quoi. Donc là, normalement, je pense qu'un an en Guinée, là, je pourrais dire qu'effectivement, j'aurais commencé à m'imprégner.
Et tu étais quand même allée au Mali, je crois, non?
Oui, j'avais été au Mali 4 mois, du coup. C'était beaucoup trop rapide, mais très intense, parce que j'étais partie faire des ateliers d'écriture. Et j'étais à Bamako, et c'était très, très riche en rencontres et partages, mais on a vécu le coup d'État là-bas. Donc à ce moment-là, j'étais rentrée à cause du coup d'État. Donc le temps de mettre en place le projet, de commencer à être un peu implantée sur place, et de sentir un peu tout ce qui s'y passe... On a dû rentrer parce que voilà, c'était le coup d'État. Ça m'a aussi fait percevoir ce que c'est que la réalité des pays pauvres qui vivent du jour au lendemain vivent un coup d'État et que on n'est plus sur la même réalité qu'en France, quoi.
Et d'ailleurs, dans ces moments-là, tes textes étaient imprégnés de cette angoisse qui advient comme ça, subitement.
Mais c'est ce que j'essaie de relater, en tout cas dans le spectacle que j'ai écrit et qu'on joue avec Ahmet. Toute cette naïveté dans laquelle j'ai pu partir à 24 ans, vouloir faire des ateliers d'écriture, et en même temps toute la mise à la réalité sur place, où du coup, en quelques mois, tu vois un pays qui s'écroule et toute l'angoisse... des gens qui vivent ça, quoi, parce que tu sais que là, ils vont vraiment vivre une crise humanitaire, que toi, t'as ton passeport de blanche et que tu vas pouvoir partir, mais que eux, derrière, ça va être une abomination parce que c'est des pays très pauvres et un coup d'État dans un pays pauvre, c'est atroce. Les gens savent qu'ils vont souffrir énormément. Et du coup, je pense que tant qu'on n'a pas vu ça et vécu ça, c'est très compliqué de le comprendre. Je pense que ça a été des grandes expériences formatrices de ma vie, de ces voyages-là. Et j'ai mis du temps à vouloir repartir en Afrique aussi, je pense, à cause de ça, parce que ça fait peur, ouais, de voir les militaires en face et de pas savoir si tu vas repartir chez toi, si ta vie, t'as l'impression que ta vie t'appartient plus, quoi. Donc c'est puissant.
C'était un sentiment partagé avec d'autres personnes que tu rencontrais?
Oui, on était tous très... On avait peur en sachant qu'on était en même temps entre. On avait trouvé une auberge avec d'autres voyageurs français qui étaient là aussi, donc on savait qu'on repartirait à un moment donné, quoi. Et on savait ce statut qu'on avait. Voilà, on avait pas mal de copains forcément maliens et on devait aussi être dans le mode bon, bah, on est désolé, on va pas rester, quoi, parce qu'on n'est plus utile là et que. Mais du coup, ça crée. Ouais, on se sent très blanche à ce moment-là.
Tu es revenue en France et tu as pratiqué l'écriture toujours. Tu jouais de quel instrument à ce moment-là, avant le Ngoni?
Je jouais pas d'instrument. J'étais souvent accompagnée de guitaristes, en fait. Et c'est quand j'étais là-bas, j'avais rencontré des joueurs de kora. Kora Goni, je me souviens. Et c'est justement en retour, en fait, j'ai voulu trouver mon propre instru pour pouvoir être plus autonome aussi.
En début d'émission, je te disais que tu étais attirée par l'Afrique et par les voyages aussi. Est-ce qu'il y a d'autres continents qui t'inspirent ou que tu désirerais aller?
J'aime beaucoup. L'hiver dernier, j'ai eu la chance de partir au Mexique et j'ai failli y rester. Et j'avoue que c'est un pays qui est assez magique aussi au niveau artistique. Mexico, c'est 30 millions d'habitants, ça brasse énormément de cultures et de mouvements citoyens artistiques. Et ça fait partie des pays où j'aimerais pouvoir retourner avec la compagnie, les projets, retrouver des compagnons d'aventure que j'ai rencontrés là-bas qui sont très chouettes. Et voilà, parce que partager ces énergies-là avec d'autres nationalités, c'est génial. Donc j'espère qu'eux vont venir en France, que moi je pourrais retourner au Mexique, enfin voilà.
On va parler un peu de cette compagnie. Donc, vous êtes combien au sein?
Alors, du coup, j'ai créé cette compagnie et j'ai des amis qui me suivent dans l'aventure. Donc là, c'est en collectif officiel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'accompagnent et qui me soutiennent, que je remercie. Mais en tout cas, dans le collectif officiel que je suis en train de monter, donc il y a mon ami Emmanuel, qui est du coup sur Limoges. Il y a Karine, qui est dans le Tarn. Et du coup, la semaine dernière, j'ai eu la chance donc de retrouver Rebecca Chaillot, qui du coup, elle, est dans la Drôme, qui est pianiste, qui a accepté d'être marraine de la compagnie. Et donc l'idée, c'est d'avoir un bon collectif de femmes émancipées qui tiennent la route et qui du coup soutiennent le projet et qui chacune monte, ont plein de projets et font plein de belles choses. Et... voilà, que j'espère que ça partira bien.
Et là-dessus, donc, les textes que tu continues d'écrire, est-ce que tu vois une évolution? Est-ce que tu y vois de l'espoir dans les années à venir?
Moi, en tout cas, je vois mon évolution, c'est sûr, en 8 ans. Je vois la confiance que j'ai acquise, surtout, je pense, dans ce que je fais et ce que je veux. Et c'est peut-être les joies de la maturité, on va dire. J'ai l'impression de... voilà. D'avoir mûri et de pouvoir justement faire mûrir mon travail, et c'est chouette. J'ai encore un bon chemin à faire, mais en tout cas, j'espère pouvoir tenir mes projets et les faire apparaître, clairement. De l'espoir, j'espère. Ce que j'espère, c'est qu'il y aura vraiment de la place pour les expressions en France, citoyennes, féministes et féminines, qu'on a encore... beaucoup de boulot sur le fait de pouvoir accéder à des postes à responsabilité en France, sur la parole libre, sur beaucoup de choses. Parce que certes, on nous fait grandir dans une société quand même plutôt démocratique, mais la réalité, elle est encore un peu difficile. Donc voilà, j'ai de l'espoir dans le sens où on est quand même nombreux en France à vouloir ça, qu'il y ait de la place pour tout ça. Donc... je vais essayer de garder espoir, ouais.
Est-ce que le terme poétesse te plaît aujourd'hui quant à sa dénomination professionnelle?
Eh bien, justement, je le trouve, même si c'est flatteur, j'ai toujours été quand même flattée qu'on me dise ça. Après, je pense que je suis arrivée à un degré aujourd'hui de... j'ai envie de me dire... me sentir encore aussi investie vraiment d'une mission de transmission et de sens dans ce que je dis, ce que je transmets. Et c'est pour ça peut-être que le... Alors humoriste, c'est encore un terme qui est intéressant, mais le fait de vraiment réfléchir à des sujets de société et de pouvoir en parler et d'être écouté sur un sujet qu'on a travaillé, ça me paraît important. Alors le fait d'avoir été prof, forcément, ça me donne ce statut-là aussi d'ancrage, quoi. Et le risque de ce terme poétesse, c'est que ça soit perçu comme quelque chose de... Je ne sais pas si le terme frivole correspond, mais en tout cas, la place de la poésie n'est pas claire en France. Donc ça dépend comment elle est perçue, en fait, je pense.
Tu disais être enseignante en quelle matière ?
Alors du coup, l'année dernière, j'étais prof des écoles dans la Drôme provençale. J'ai fait plusieurs expériences. J'ai fait prof des écoles un an et demi et j'ai fait un an en lycée agricole en prof socioculturel.
Et tu parlais de sens aussi, de transmettre un sens. Quel est ce sens, d'après toi, à transmettre auprès du public ?
Ben, moi, c'est le sens d'une certaine forme de réalité, en fait, que moi, je perçois et que je travaille dans les sujets que je travaille. Poétesse, c'est certainement une manière de mettre de la poésie dans la vie de tous les jours et d'en faire quelque chose, mais tout en étant connecté au réel, quoi. Et du coup, par exemple, sur la performance, je fais rebond forcément sur ce que j'ai créé du coup, et pour pouvoir parler un peu de choses concrètes aussi. Du coup, sur la performance Dérobe-toi avec Ahmet, j'ai voulu justement un peu marier ce côté féminin que j'ai en moi, de porter des robes, et en même temps de mettre des textes un peu provocateurs et trash sur les robes pour pouvoir dire « Ok, j'aimerais passer au stade de « je suis une princesse, mais j'ai des choses à dire, donc écoutez-moi et regardez ça, en fait. » Et sur ces textes-là, je parle justement de cette réalité que j'ai croisée sur ma route, de jeunes femmes aventurières qui partent à la découverte de l'Afrique, ce qu'elle perçoit, ce qu'elle ressent et ce qui se passe quand on va faire un projet en tant que femme dans un pays, quoi. Et je crois que beaucoup de gens ne se rendent pas compte parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est compliqué à comprendre, mais effectivement, du coup, ouais, il se passe beaucoup de choses dans ces moments-là.
Quand tu proposes un projet, tu le proposes à quel organisme ou à quel soutien ? Et est-ce que tu l'as, ce soutien, en finale, pour te lancer dans une aventure ?
Alors, pour le projet, pour quel projet ?
Tu parlais de projet, je ne sais pas, de création ou de...
Justement, ouais, non, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, oui. J'ai acquis un soutien.
Avant de continuer, je voudrais savoir si toi, en tant que femme, les soutiens ou une aide d'organisme hein, ou d'échange avec la France et un pays d'Afrique, par exemple, culturel, est-ce que... il y a des barrières encore au niveau de l'administration, d'après toi ?
C'est sûr qu'il y a des longueurs. Enfin, au niveau du soutien, en tout cas, je sais que c'est pas simple en France. J'ai peut-être pas encore trouvé tous les bons codes et tout, mais je sais que c'est pas évident de monter sa compagnie. Je sais que ça va être encore une bonne bataille de réussir à gérer ça et à trouver les sources de financement qu'il faut pour mettre en place tout ça, parce que jusqu'à maintenant, j'autofinance et j'ai le soutien d'une bande de créateurs et de créatrices qui me permet de fonctionner.
Ce qui est déjà bien.
Ce qui est déjà génial, que je les remercie infiniment pour ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu veux pouvoir acheter du matos et faire tourner vraiment des activités, tu passes aussi à ce niveau-là sur des demandes de subventions publiques, quoi. Et je pense que ce serait bien que ça arrive à un moment donné, parce que c'est une reconnaissance aussi d'un travail. Et après, voilà, là, je sais que j'utilise le statut de volontaire international pour travailler en Afrique. Donc, je suis quand même financée, du coup, par le ministère des Affaires étrangères. Après, je pars travailler pour 500 euros par mois sur une mission en Guinée. Et je pars pour travailler pour une compagnie de théâtre qui, du coup, a des sources de financement internationaux, quoi.
Donc il y a toujours quand même des petites portes à découvrir pour des projets, hein, quelque part.
Oui, bien sûr, il y a toujours des portes à découvrir et c'est le chemin quoi, qui fait que justement tu les découvres et il ne faut juste pas perdre la foi. Quoi.
Oui, il faut être motivé. Quelle est ta motivation à part la transmission du sens
Je pense que c'est un rêve. J'ai toujours rêvé, enfant, de pouvoir vivre de mes activités artistiques et d'écrire. Et un jour, je me suis dit que j'arriverais à voyager dans le monde entier grâce à ce travail-là. Et donc, du coup, ça m'a toujours permis de trouver des solutions à un moment donné. J'ai été prof, là j'ai la chance de pouvoir faire ce projet-là. Je ne sais pas si j'arriverai à vivre du travail de ma compagnie. Et donc, après, c'est quand on a des passions, je crois qu'on trouve les moyens de les réaliser, quoi.
Et puis, vous avez peut-être une visibilité sur Internet ?
Et j'essaye du coup d'avoir une visibilité sur Internet parce que du coup c'est chouette de voir qu'il y a des gens qui me suivent. Donc ça me donne encore plus envie de publier des newsletters, de mettre des choses sur le site. Et j'espère là pouvoir continuer à faire un vrai reportage sur ce qui se passe en Guinée et pouvoir le transmettre à Erdiwa, aux gens du Diwa aussi et puis ailleurs. Et pour partager ça aussi parce que je sais que c'est une chance de voyager, que tout le monde ne l'a pas. Donc c'est chouette de pouvoir...
Tu peux peut-être indiquer aux auditeurs l'adresse du site internet.
Le site internet de la compagnie, c'est http://voile-du-monde.assoconnect.com.
Voilà qui est dit. Et puis, ta compagnie, est-ce qu'elle aurait pu s'appeler Zil?
Zèle comme mon nom d'artiste. J'ai choisi Voile du Monde parce que, pour rebondir, c'est que j'aime la voile du voyage. Je trouve que l'image de la voile me correspond bien parce que j'ai l'impression aussi avec l'écriture de mettre de la lumière sur ce que je cherche, ce qui se passe sur Terre, etc. etc. Et que du coup, c'est une histoire d'aller voiler un peu certaines choses pour aller en dévoiler d'autres. Et en danse aussi, le voile est très beau. Et il y a la voile du voyage avec le voilier qui forcément incarne le voyage en beauté. Donc, et plus après, j'ai essayé de rebondir aussi sur les sujets qui touchent énormément de femmes. En tout cas, l'histoire de la femme voilée aussi, ça incarne énormément de choses. Donc j'aimerais un jour pouvoir faire des ateliers autour de ça. Et Zèle, j'ai envie de le garder comme nom d'artiste. C'était un petit délire aussi du Z de Zorro et des ailes de la liberté.
Zèle, donc il faut préciser l'orthographe est particulière, Z'2L. Et puis on va terminer l'émission peut-être avec un dernier morceau. Tu vas peut-être nous parler de ce morceau avant de nous le jouer.
Oui, alors ça c'est mon dernier texte, Qu'est-ce qui me reste de toi, que j'ai écrit quand j'étais à Paris au mois de janvier où je suis partie signer le contrat pour la compagnie La Muse. Et en même temps c'était tout ce qui se passait avec les gilets jaunes et toute la colère d'un peuple qui n'en peut plus en fait d'être soumis à un dictat et voir tous ces CRS aussi, ça m'a inspirée. Et le dimanche après, on était partis se balader avec Félix, un ami qui est graffeur. Et j'ai découvert en face du 104 à Paris, du coup, un mur entier de graffes qui représentait en fait justement ce qui s'était passé à Paris au niveau des manifs. Et ça, ça m'a donné envie d'écrire un texte sur ça. Et donc, je vais vous le dire. Ce texte est en ligne sur mon site. Et il y a des photos aussi, une photo qui est chouette du graffe qui a été fait à ce moment-là.
Eh bien, moi je t'invite à t'installer et puis on va écouter ce dernier morceau. Et je te remercie aussi, Justine, d'être venue nous parler de ce que tu faisais. Et je te souhaite une bonne soirée.
Qu'est-ce qui me reste de toi ? Si ce n'est qu'une lumière qui brille, qui se demande où elle va. Comme si une étoile pouvait danser dans une rue ou matraque et Kalachnikov se batte en duel pour savoir qui régnera en maître sur le pavé. Battu de sang, cousu à la main, par d'étranges senteurs qui veulent nous faire frémir. Frémissement devant l'oubli de l'horreur de ces hommes arc-boutés à défendre l'honneur d'un pays aux trois couleurs, unifié par le cœur de la défense. Ils n'ont pas compris, c'est la seule chose à dire à ce moment-là, quand ils ont tapé avec leur matraque un peuple qui cherche juste sa liberté de vivre dans ce monde-là. Frémissement, doucement. Je n'arrive plus à marcher au milieu des bombes. Je n'arrive plus depuis que j'ai vu la douceur et le regard des enfants. Je n'arrive plus à croire qu'il faut y aller. Pour leur montrer qu'on est là, qu'on y croit, qu'on ne les laissera pas nous insulter. Je remercie ceux qui ont été. Je suis restée sage sur ce coup-là. J'avais eu ma dose de confrontation avec la sécurité nationale. Pourtant, merci la France quand même d'être là. Doucement, On a encore plein de belles choses à vivre ensemble. Je n'ai que 33 ans. À vif, il vous faudrait plonger encore plus loin pour faire monter le surgissement d'une vague qui fera naître un avenir. Si les murs parlent, que les cris percent la cage. Bataille d'enjeux communs où chacun joue sa pièce. Ils sont bel et bien là, vivants, grouillants, avec des sourires de fous. Au Sacré-Cœur, mi amor, toujours là. En fait, c'est quand on ne sait plus que c'est bon, qu'on peut galoper avec le vent. Tu veux que je te lise des vers? Des vers inconnus? Des vers d'ailleurs, d'ailleurs. J'irai me jeter dans la neige blanche et fraîche demain. Merci mon Dieu, j'ai une vie et je suis au chaud. On a écrit partout que la vie est un cadeau, alors pourquoi on l'oublie? Sans toi, mon amour, j'erre toujours au détour d'un carrefour. D'ailleurs, j'ai trouvé des bombes de mots jetés au vent, des bombes de lumière qui éclairent, des bombes qui slashent les murs gris de Paris un dimanche après-midi après une journée de manif. Traces laissées sur le pavé d'une ville qui étouffe sous la misère des uns, l'opulence des autres, la course effrénée pour s'en sortir chaque jour pour un peu mieux, un peu plus, un peu de joie, un peu d'amour. Si on m'avait pas réveillée, je serais encore en train de dormir comme une marmotte à 6 pieds sous terre. Parfois, il vaut mieux être écureuil dans ce monde-là. Les noisettes à la crème, ça me connaît par cœur. Je leur cours après pour les croquer goulûment sur un pont que j'enjambe. Je les jette à l'eau avec mon sourire et je regarde la rivière partir avec. Et je me demande encore ce qui m'est passé par la tête. Voilà, c'était Zelle. Et merci Erdiwa de m'avoir reçu. Et je pars maintenant du coup travailler pour la compagnie La Muse à Conakry. Et j'espère pouvoir du coup vous parler des activités là-bas. Et pour ceux qui sont vraiment motivés, ben, il y aura un super festival à l'automne prochain, l'Univers des mots, avec une centaine d'artistes. Donc bienvenue en Guinée-Conakry.